Говорит Москва.
Chers amis, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, le podcast tant attendu, enfin en tout cas, je ne sais pas s'il est tant attendu, mais tant promis et donc tant tenu. Et là, voilà, ce podcast, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer. Je vous avais promis quelque chose d'extraordinaire et la promesse là-dessus sera entièrement tenue. Puisque j'ai décidé de... Alors, on n'abandonne pas la Russie, hein, mais j'ai décidé de prendre un peu de recul et de hauteur, et de m'éloigner pour un temps des bruits de bottes, des bruits de guerre, des bruits de géopolitique et de géopolémique, pour vous faire rencontrer une personne hors du commun, une personne vraiment extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, comme on en trouve beaucoup à Moscou, une personne qui s'est expatriée en Russie pour épouser la foi orthodoxe, et qui a un service particulier dans l'église, puisqu'elle sonne les cloches. Alors, excusez-moi si, comme dirait Monsieur Albert dans le mariage de Mademoiselle Bellemans, je tombe un peu trop court de mes mots, mais j'étais très ému en enregistrant ce podcast et par la rencontre que j'ai faite avec Aurélie, qui est une personne extrêmement sensible et aussi extrêmement fidèle au service dû au Seigneur. J'ai trouvé, j'ai franchement été touché. On a eu un bel échange, parce que ça fait longtemps que je me posais beaucoup de questions sur les cloches de l'église orthodoxe, qui, comme vous l'entendez derrière moi, ont un son tout à fait particulier. C'est, vous savez, dans l'église orthodoxe, aucune musique n'est autorisée, excepté, et c'est très présent, les voix et les cloches. Vous n'avez pas d'orgue, par exemple, contrairement aux églises chrétiennes occidentales, vous n'avez pas d'orgue. Alors, cela dit, l'orgue a bien failli disparaître à la Réforme, puisque Jean Calvin considérait que l'orgue, c'était la cornemuse du diable, rien que ça. Bon, alors heureusement que sur ce plan-là, il n'a pas été suivi, parce que seraient devenus les bars Buxtehude et d'autres. Donc avouez que c'eût été quand même dommage, comme quoi le pouvoir n'est jamais, l'exercice du pouvoir n'est jamais très bon. Enfin bon, je vais pas m'engager dans de trop grands discours philosophiques. En tout cas, je vous invite à me suivre dans cette rencontre avec Aurélie. Les amateurs, comme je le dis dans l'article, les amateurs de son binaural auront plaisir à écouter ce podcast avec des écouteurs ou sous casque. Je m'excuse, normalement on dit excusez-moi, mais moi je m'excuse, je n'ai pas une partie de l'interview à un son qui est un petit peu dégradé. J'en suis désolé, c'est des soucis techniques, mais cela dit, la teneur de l'interview est, elle, tout à fait intéressante. Je remercie, bien entendu, encore une fois, ce sera la dernière, très chaleureusement Aurélie, de m'avoir permis de l'accompagner jusqu'en haut de ce clocher. Voilà. Elle avait très très peur que je me rompe le cou dans les escaliers en colimaçon. Elle ne sait pas que moi, les tours, tout ça, ça me connaît. Je monte assez vite dans les tours, d'une manière générale. Vous vous en êtes peut-être aperçu. Voilà. Alors en tout cas, j'ai assez bavardé. Je vous laisse donc en compagnie d'Aurélie et de ce podcast que je vous demanderai encore une fois de partager et éventuellement de commenter. Les commentaires, bien sûr, seront lus et transmis à Aurélie. Quant à moi, eh bien, je vous remercie et je vous retrouve tout de suite. Salut Aurélie.
Comment ça va ?
Bien et toi ?
Ça va ?
Mais oui, ça me fait plaisir de te voir.
Mais oui, moi aussi.
Tiens, je vais te demander de me débarrasser de ça définitivement. C'est une petite attention de Suisse.
T'es trop gentil, Jacques. C'est trop sympa.
On n'est jamais trop gentil.
Mais si, t'es
non.
Trop gentil.
On n'est jamais trop gentil. Merci en tout cas d'être là.
Écoute, merci à toi. Jacques, j'espère que ça va aller, que ce ne sera pas trop difficile.
Les escaliers ? Non, ne t'inquiète pas. Alors, si c'est ça qui t'inquiète, moi, il y a beaucoup d'autres choses qui m'inquiètent.
Ah bon, je ne sais pas. Alors, voilà, l'entrée de l'église est ici.
D'accord.
Sur une petite marche, je vais aller chercher la clé du clocher.
Du clocher, d'accord. Je t'attends.
Tu m'attends ici.
Je t'attends.
Okay. Alors, pendant l'office, pendant la liturgie, je dois sonner aussi 12 coups pendant ce qu'on appelle le canon eucharistique, c'est-à-dire pendant que le pain et le vin sont sanctifiés. Pour ces 12 coups-là, je propose que tu restes dans l'église parce que c'est simplement 12 coups.
Ça marche.
Et puis après, je ressonne encore une fois les cloches à la fin de l'office. Sois prudent, on va pas trop vite.
Non, non.
Voilà, ça va comme ça.
C'est parfait.
Et puis, je te dirai quand c'est la fin, encore quelques marches. Voilà, encore 2, 3, 2, et maintenant il n'y a plus de marche, c'est la fin.
Et voilà. Et je t'attends.
Ça va. Et moi, je vais ouvrir la porte qui est derrière toi. Oh, mes mains, ils m'ont donné une autre clé. Oh, ils m'ont donné la clé des prosphores. Attends.
Je t'attends. Il n'y a pas de problème.
Oh, là, ils sont trompés de clé.
C'est pas grave.
J'arrive. Tu m'attends là.
Pas d'angoisse.
Tu bouges pas. Là, il y a
je ne bouge pas. Ils se sont excusés, j'espère. Je te laisse entrer.
Voilà, il faut juste que tu...
Est-ce qu'il faut baisser la tête ?
Non, oui.
Oui, bon,
parce que... Alors, je vais avant toi ou tu vas...
Oui, va avant moi.
Ok, alors, attention, donc ici, ce sont des petites marches, je vais t'accompagner, attends-moi 2 minutes.
Je t'attends.
Voilà, ça y est, tu peux venir, première marche, deuxième,
et ça marche.
Troisième un peu plus haut, quatrième petite, voilà, alors voilà. Attends-moi 2 minutes, je dépose mon sac.
Et tu fermes la porte.
Non, je ne vais pas fermer la porte, on peut la laisser ouverte. Est-ce que tu veux déposer des affaires ici ?
Non, je viens déposer.
Clocher.
J'ai rien à déposer.
Ok. Alors tu passes devant moi ?
Ça marche.
Ok, attention, escalier en colimaçon.
C'est magnifique.
Fais attention parce que. Voilà, fais bien attention, on va tout doucement. Là tu peux pousser la petite porte et.
Et voilà, on y est.
Encore une dernière marche, puis il y a un petit peu de place. Et maintenant on retourne par là.
Ah oui, c'est bizarrement foutu.
Oui, c'est bizarrement foutu, je t'expliquerai après.
Tu vas tout m'expliquer.
C'est reparti pour un colimaçon. Vas-y doucement, on a le temps.
Ouais, ouais.
Ça va ?
Parfait.
Voilà, encore quelques marches. Voilà. Alors, stop, stop, stop.
Elle est fermée à clé ? Oh, pardon,
voilà.
Excuse-moi.
Pas de problème. Vas-y, tu peux sortir. Attention, on peut pousser. Voilà, stop. Et en fait, on est au clocher.
Là, on est arrivé en haut.
On est arrivé en haut. Alors, regarde. Je peux peut-être t'installer sur un petit banc. Qu'est-ce que t'en dis ?
Ben, pourquoi pas.
Regarde. Ici,
Mais est-ce que toi, tu as ce qu'il faut? Ça, c'est le toit de la glisse?
Non, non, ça, c'est le toit de l'escalier. Allez, tu peux c'est tout t'installer, bon. Mais tu es sous une cloche.
Oui.
Alors, regarde. Il est, donc, tu as plein de cloches tout autour de toi.
Oui.
Il est 9h39 oui. Et on a 6 minutes pour discuter parce c'est que je génial. Commence à 45. À 45, je dois sonner pendant 10 minutes.
Oui.
La grosse cloche.
Oui.
Regarde, je vais te faire un petit son ici. Et tu vois, elle est juste au-dessus de toi, donc.
Ah ouais, d'accord. Et
quand tu te lèves, il faut faire attention parce qu'elle est vraiment.
Parce que la tête est, la cloche est plus dure que ma tête.
Oui.
C'est ça.
Donc voilà, mais tu risques rien, tu es. Simplement, je t'explique. Donc pendant 10 minutes, je dois sonner. Juste des coups de cloche pour rappeler la prière.
Oui.
Et puis je sonne pendant 5 minutes une sonnerie mm-hmm. qui s'appelle Trisvonne. Mm-hmm. Trisvonne, c'est une sonnerie du dimanche. Aujourd'hui, c'est une mini résurrection, une mini Pâques. Chaque dimanche est une mini Pâques. Donc on sonne des sonneries de fête tous les dimanches.
D'accord.
Et je sonne cette sonnerie pendant 5 minutes, jusqu'à 10 heures. Donc de 10h45 à 55, seulement un coup pour appeler à la prière. Et de 55 à 10h, 5 minutes de trésorerie.
D'accord.
D'accord. Mm-hmm. Ensuite, on peut descendre tranquillement. Si ça te va, je t'installe à l'église, tu seras très bien. Tu vas écouter les chants.
Pas de problème.
Tout ça. Et puis on verra si tu veux remonter.
Bien sûr que. Voilà. Mais c'est génial.
On verra bien.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. On verra après.
Ça va, ça a été la montée ça t'a, est-ce que tu es un peu moins angoissé?
Oui, ça va. Je vois que ça va.
Rappelle-moi le nom de l'église.
L'église s'appelle l'église de la Sainte Trinité, Vlistar.
C'est quoi
Oui, j'imagine dans les feuilles ou sous les feuilles, mais je t'avoue que malheureusement, je n'ai pas d'explication sur le nom de cette église. Je sais que c'est une église dédiée à la Sainte Trinité. Vlistar, c'est peut-être quelque chose qui aide à simplement à dénommer le lieu, parce qu'il y a beaucoup d'églises dédiées à la Sainte Trinité à Moscou.
Mm-hmm. Et alors, tu es installée à Moscou depuis combien de temps?
Je suis à Moscou depuis 4 ans et demi, au mois de septembre 2024, ça fera 5 ans.
Ça fera 5 ans. Donc en 2019, tu es arrivée ici?
Absolument, en septembre 2019.
Et qu'est-ce qui a motivé ce...
C'est l'orthodoxie.
Et tu es devenue orthodoxe ou tu es née orthodoxe?
Je suis devenue orthodoxe en 2016, en Belgique.
D'accord. Et à quelle occasion? Il y a une histoire derrière ça, j'imagine.
Il y a une longue histoire sur laquelle je ne vais peut-être pas m'attarder, parce que voilà. Mm-hmm. Mais ce que je peux dire, c'est que on m'a à un moment conseillé de chercher Dieu, et c'était un très bon conseil face à des situations de la vie pas faciles. Et ces personnes étaient russes. Et puis on m'a recommandé d'étudier la théologie orthodoxe à Paris, ce que j'ai fait. Et ces cours de théologie à l'Institut Saint-Serge à Paris m'ont beaucoup, beaucoup plu. Et je suis devenue orthodoxe après chaque examen, m'ont
convaincu
de plus en plus à devenir orthodoxe. Et au dernier examen, j'ai poussé la porte pour sortir, j'ai tiré la porte et je me suis dit je deviendrai orthodoxe toute ma vie, c'est sûr.
Et est-ce que à ce moment-là, donc au moment où tu as fait cette rencontre, tu parlais pas le russe?
Non, pas du tout. Non. Ces études étaient en français.
Donc ces études étaient en français, tu as appris le russe par la suite, après, ici à Moscou.
Voilà, après, avec justement ces personnes qui m'avaient... recommandé, qui était orthodoxe et qui habitait Paris, avec lesquels je suis toujours en contact, à deux Russes. Après ça, nous avons fait des pèlerinages, notamment en Russie, à Moscou. On a été visiter tous les grands hauts lieux de pèlerinage russes, Optina Poustine, la Laure, de Sergueï Passad, Balaam. On a vraiment été visiter beaucoup d'endroits et je me suis dit, mais mais qu'est-ce que je fais encore en Belgique? Pourquoi je ne suis pas ici en Russie où il y a tous ces endroits saints qui sont magnifiques? Et je sentais aussi dans les églises beaucoup de... comment dire, les gens sont très pieux, les gens ont Dieu dans leur cœur, ce qui n'est plus le cas du tout en Belgique. Et voilà, je n'avais plus le désir de vivre dans un pays athée avec des petites églises, des offices un peu tristounets. Mm-hmm. Bon, voilà, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait ici, les reliques, les icônes, les offices, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je dois commencer à sonner.
ça va.
T'es sûr?
Bah oui.
Bon, voilà.
Écoute, magnifique.
Heures,
on descend?
Ouais.
Alors on descend.
Ça va, ça a été?
C'était très intéressant, ouais.
Ouais.
Après tu vas me raconter la signification de tout ça, parce qu'il y a certainement une... Je t'ai entendu sonner une cloche d'abord.
Oui.
Pendant...
10 minutes.
10 minutes. Et ensuite, donc, une...
sonnerie pendant 5 minutes.
Une sonnerie qui est différente selon les églises, c'est ça?
Non, qui sonne différemment simplement parce que les ensembles de cloches sont différents, tu vois.
D'accord.
Ici, c'est un ensemble qui donne une telle tonalité dans une, dans un autre clocher. Ça sonne la même sonnerie, sonne différemment parce que c'est d'autres cloches. Voilà,
je ferme la porte, là?
Non, non, tu peux laisser comme ça.
On peut laisser comme ça.
On laisse tout ouvert, t'inquiète pas.
On laisse tout ouvert, aux 80.
Aux 80, de toute façon, tout est ouvert aux 80.
Dis donc, quand il fait moins 15...
Quand il fait moins 15, il fait froid, mais quand on fait des cloches, ça réchauffe. Ouais.
C'est physique?
Oui, c'est vraiment physique. Allô? Ici, c'est la forme, encore deux marches.
Et on est bon.
Deux, voilà. Et puis là, tu vas te décaler un petit peu par ici. J'ouvre la petite porte comme tout à l'heure.
C'est tout
voilà.
Bon, voilà.
Et puis, on retourne dans ce petit...
Pardon.
C'est bon, c'est bien, je t'en prie. Voilà, et la rampe est là.
Ça marche.
D'accord?
Ouais.
Ça va?
C'est tout bon.
Voilà.
Là aussi, je dois fermer ou je laisse ouvert?
Non,
on peut tout laisser ouvert. Ok, ça marche. T'as pas peur que quelqu'un vienne sonner les cloches?
Non.
Oui, c'est bon, j'ai vu.
Et en fait, le toit, il est hyper léger, donc il est fait pour se soulever. Voilà, là, c'est vraiment pas facile. Hein.
Non, c'est bon.
Ça va?
Je m'attendais à pire.
C'est vrai?
Oui. Ah oui, tu m'as vraiment fait peur.
Oh,
non, je rigole.
Attention, il y a deux petits plafonds.
En fait, c'est surtout ça que je crains, c'est plus la tête que les pieds.
Ben oui, je comprends.
Parce que j'en ai qu'une, alors que des pieds j'en ai deux.
C'est bien, c'est un bon sens du mot. Alors, attends, ici, je dois fermer un petit peu la porte, juste la mettre contre. Et attention, une petite marche.
Donc là, ça a déjà commencé.
Et puis, une petite
Thank you.
Thank you.
juste un peu pour reprendre un peu ton parcours. Donc tu es arrivé en Russie en 2019 et tu es alors tu as donc un service à l'église où tu sonnes. Alors, ce matin sonner en rythme. Alors d'abord explique-moi un peu, c'est des... tu tapes sur un clavier, c'est des marques, qu'est-ce que c'est? Techniquement, en fait, qu'est-ce que c'est?
En fait, il y a plusieurs styles de cloches. Les plus petites, je les sonne avec la main droite. Mm-hmm. Donc il y a trois petites cloches qu'on appelle des azones. Mm-hmm. Et donc le bâton de la cloche, qu'on appelle la langue en russe, il y a dit, est rattaché à une corde. Mm-hmm. Et donc je prends ces trois cordes pour les trois cloches. Mm-hmm. Elles sont reliées ensemble. Et donc je sonne ces trois cloches. Ça, c'est à la main droite. Mm-hmm. À la main gauche, il y a plusieurs aussi, le même système, plusieurs moyennes cloches qu'on appelle les padzones. Et là, j'en ai 5 à la main gauche. Et je les sonne simplement en appuyant sur une corde qui est reliée là aussi au bâton. De chaque moyenne cloche. Et puis au pied, j'ai trois grosses cloches et j'actionne ces trois grosses cloches avec la pédale.
D'accord.
Mais on ne peut pas sonner n'importe quelle cloche à n'importe quel moment. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc on peut, c'est le jour de la résurrection, même si nous sommes actuellement en temps de carême, on considère quand même que c'est un mini-pâque le dimanche, donc le carême est suspendu le samedi soir et le dimanche, du coup on peut sonner avec toutes les cloches. Mais en temps de carême, on ne peut pas sonner. Par exemple, la semaine, on interdit de sonner avec les grosses cloches du pied. Par exemple, la plus grosse cloche qu'on appelle Воскресенье, Колокол, или праздничный колокол, celle-là, elle est réservée pour le dimanche.
D'accord.
Et on a une Постовой колокол et une Будни. D'abord, ce que tu as entendu, la première sonnerie, c'est l'appel. Donc j'ai sonné tout d'abord pendant 10 minutes la grosse cloche du dimanche. Pendant 10 minutes, en faisant d'abord deux coups avec une intervalle longue, et puis ensuite l'intervalle est réduit à une et demie, deux coups.
D'accord.
Voilà. Là, normalement, l'intervalle, il est fixé par notre rythme de prière, c'est-à-dire qu'on est censé prier la prière du cœur, c'est-à-dire la prière de Jésus, pendant qu'on sonne les cloches. Donc chaque intervalle correspond à la prière. Donc parfois, on le dit un peu plus lentement, ça dépend un peu de nos humeurs. Donc ça peut varier d'un dimanche à l'autre. Bon, ça varie jamais énormément, mais ça peut varier d'une ou deux secondes. Et puis après ça, après avoir sonné pendant 10 minutes, la cloche du dimanche. Après, j'ai sonné 5 minutes ce qu'on appelle un trésor, c'est-à-dire la sonnerie de cloche festive, que j'ai sonné aussi à la fin de la liturgie. Ce que je pourrais aussi t'expliquer, c'est que, en fait, ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris à sonner quelques sonneries célèbres. Par exemple, chaque monastère de Russie a sa sonnerie, ou presque. Il existe la sonnerie de Novodevitchi, il existe la sonnerie de Pskov-Pechersky, donc c'est une lore très célèbre aussi. Donc voilà, en fait, quand on apprend à sonner les cloches, on apprend à sonner les cloches de ces endroits-là. C'est pas une sonnerie comme ça, c'est d'abord on apprend à sonner les cloches de Pskov, par exemple.
Ah, d'accord.
De Rostov. Ils ont une manière de sonner les cloches très particulière à Rostov, parce qu'ils ont que des très très grosses cloches, et du coup, c'est pas du tout rapide.
On parle de Rostov la Grande, hein, pas de Rostov sur le Don. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Là où il y a le Kremlin, avec des cloches qui sont magnifiques, qui sont les plus grosses quasiment de Russie, si je ne me trompe pas. Donc je pense que c'est la lore la plus grande, la lore de Sergueï Bassad, mais en tout cas, celles de Rostov sont exceptionnelles. C'est que les cloches de Rostov sont extraordinaires, et donc il existe des sonneries de Rostov. Et il en existe plusieurs. Donc ce sont simplement les sonneurs qui ont inventé ces sonneries, qui ont créé, qui ont composé en fonction des cloches. Donc à Rostov, c'est pas possible de jouer avec un rythme rapide. Donc le rythme de Rostov est très lent. Pourquoi ? Parce que leurs cloches sont énormes. Donc on ne peut pas jouer. À Novodevitchi, il y a un autre ensemble de cloches avec une cloche qui est un tout petit peu dissonante, mais qui donne quelque chose de sympathique en même temps. Et il y a eu un très célèbre sonneur de cloches à Novodevitchi qui a créé une sonnerie justement en fonction de cette tonalité un petit peu particulière de l'ensemble des cloches de Novodevitchi. C'est encore une autre histoire parce qu'ils ont des cloches en fait qui ne sont pas du tout comme ce qu'il y a ici dans le clocher de l'église de la Sainte Trinité. Ce sont des cloches qui sont sur un mur et la corde descend jusqu'au sol. Mm-hmm. Donc en fait les moines sonnent les cloches avec les pieds et actionnent ces grandes cloches qui sont situées à quelques mètres du sol, mais sur un mur en fait. Elles sont juste accrochées, donc elles ne sont pas sur un clocher. Mm-hmm. Voilà, et du coup, il y a tout un système pour jouer ces cloches. Ils ont aussi inventé plein de choses, parce que ce n'était pas très pratique. Et donc ça a donné une sonnerie assez répétitive, mais très très rapide. Parce qu'ils ont trouvé le moyen de se mettre en face de ces cloches qui sont reliées au mur et ils les tiraient en fait avec d'autres ficelles. Et donc ils ont réussi à trouver une mélodie mais qui s'accorde parfaitement, qui est tout à fait inspirée du lieu et de la capacité de ce qui était possible de faire à cet endroit-là. Donc ça c'est la sonnerie de Pskov qui est assez rapide. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Bien ce que tu veux dire, mais quand tu me dis j'ai appris à sonner les cloches de Pskov et ça veut dire que tu t'es rendu dans les sonneries de Pskov. Non.
Non, c'est-à-dire qu'on les a appris, on a dit voilà, à Pskov, on a une personne comme ça, et c'est.
l'idée. Enfin, bref, voilà.
Il y a un rythme particulier.
Il y a un rythme particulier. À Rostov, c'est pim, pam, 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 tam. C'est encore autre chose. À Novosibirsk, c'est tam, tadadam, didadidadam, tidadam. C'est à chaque fois une autre mélodie. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça ne m'a pas empêché de visiter ces endroits, bien entendu.
Bien sûr.
Puisque j'adore ça. Et je sonne par ailleurs aussi les cloches à Novosibirsk. Voilà, c'est tout.
Alors, là, donc, vous êtes en plein carême.
Oui.
Donc, le carême, pour toi, ça s'exprime comment? C'est des privations? C'est un temps de prière particulier? Est-ce que j'imagine que tu as une discipline quotidienne, puisque tu es une servante de l'Église? Donc, tu as une discipline quotidienne, j'imagine, une discipline spirituelle? Voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors le carême, dans la foi orthodoxe, c'est vraiment un temps très très important. Le grand carême, qu'on appelle Veliki Post, qui dure 40 jours, il est essentiel parce qu'on s'apprête à fêter Pâques.
Ouais.
Pâques, c'est la fête de toutes les fêtes. C'est vraiment le plus important dans l'Église orthodoxe, c'est Pâques. C'est plus important pour nous que Noël. C'est vraiment la fête des fêtes. Quand on chante les trompères de Pâques, on dit Trojest Istrojest, je ne sais pas bien. Enfin, c'est la fête des fêtes. Donc il faut se préparer puisqu'on s'apprête à participer à la résurrection.
Alors, on se prépare comment ça?
On se prépare. Le plus important pendant ce carême, c'est le repentir. C'est-à-dire. Essayer avec la grâce de Dieu de comprendre quels sont nos péchés et nos passions qui nous empêchent d'être vraiment libres. Libres dans le sens libérés de tout ce qui nous rend esclaves en fait, de toutes nos dépendances, de toutes nos réactions. Voilà, on a tous énormément de passions. Donc le carême, c'est le moment de se limiter par la nourriture. Par la nourriture, donc on fait on respecte un carême assez strict, sans viande, sans lait, sans aucun privilégié. Donc voilà, le plus important ce sont les prières. On célèbre, on prie tous les jours ce qu'on appelle la prière de Saint-Ephrem syrien, qui est une très belle prière où on demande à Dieu justement de nous aider à voir nos péchés. Donc quand on mène convenablement cette période bénie, parce que c'est une bénédiction que de pouvoir se rendre compte de nos péchés, et surtout avec l'aide de Dieu d'arriver à y renoncer. Donc quand c'est comme ça, ce que je voulais dire, c'est que grâce à ces prières de Saint-Ephrem le Syrien, on arrive on demande à Dieu qu'il nous montre nos péchés et qu'il nous aide à pas juger nos frères, ce qui est aussi très important, et qu'il nous accorde, qu'il enlève de nous, c'est comme ça qu'est écrite cette prière, c'est « Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de bavardage, mais fais-moi la grâce à moi, ta servante, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, autant qu'il est mis dans les siècles des siècles à venir. » Ça, c'est la plus importante prière pendant tout ce temps de carême, qu'on prie à toutes les heures, puisque la prière de l'Église, elle est scandée en heures. On a un livre d'Église qui s'appelle le Chronobion en grec ou le Chastoslov en russe. Et à chaque fin d'heure, on prie cette prière de Saint-Ephrem le Syrien pendant le temps de carême. Et on fait en même temps ce qu'on appelle des litanies, c'est-à-dire des génuflexions jusqu'au sol. Voilà, on se relève assez vite. Donc c'est accompagné aussi d'un exercice physique. De peine physique, on essaye de se donner un petit peu de se donner un petit peu de mal que Dieu nous prenne en pitié. Voilà. Alors on pourrait croire évidemment que Dieu est bon, qu'il a pitié comme ça, mais la lutte contre les passions, c'est pas si simple. C'est aussi un petit peu faire un effort, un travail sur soi pour essayer de se dominer. D'essayer de voir tout ce qui ne va pas et essayer de s'améliorer. Et quand on mène convenablement tout ce temps de carême, en n'essayant pas trop parler, par exemple, d'éviter trop de faire des choses qui n'en valent pas la peine, passer trop de temps sur internet ou de passer trop de temps au téléphone à parler un peu de tout et de rien. On essaye de se concentrer un petit peu plus, de se ramasser un petit peu plus sur la prière du cœur, cette prière de Saint Éphrem du Syrien, et des efforts. Voilà, le plus important, c'est de faire beaucoup d'efforts. Pendant ce temps de carême, chacun a selon ses possibilités, mais la notion d'effort est très importante. Mm-hmm. Quand on mène bien ce temps de carême, on reçoit énormément de bénédictions à Pâques. On a beaucoup de fruits, des choses qui changent dans nos vies, des choses... on reçoit beaucoup. La fête de Pâques, on est vraiment tout illuminé. Si on a essayé de faire beaucoup d'efforts, encore plus, je dirais.
Tu gardes quel souvenir de ta première Pâques en tant que converti?
Ma première Pâques, c'était magnifique, évidemment, parce que je découvrais tout. J'étais très, très impatiente et très...
beaucoup de ferveur.
Oui, beaucoup de ferveur, oui, absolument. Et c'était magnifique, évidemment. On a passé beaucoup de temps. J'étais à l'époque à Bruxelles. On a passé beaucoup de temps à décorer aussi l'église. Il y a énormément d'offices pendant la période de carême. Donc j'ai essayé de participer à beaucoup d'offices. Je chantais même déjà à l'époque en slavon. C'était très chouette. J'étais tellement motivée.
Et parce que là, on précise que nous enregistrons en plein carême, en plein carême orthodoxe, alors que le carême catholique et protestant dans les liturgies catholiques et protestantes est terminé, lui, puisque Pâques est déjà passé.
Tu sais, l'orthodoxie a gardé en fait beaucoup de traditions. La force de l'orthodoxie, c'est d'avoir conservé toutes ces traditions. C'est ce qui la rend. L'orthodoxie s'est arrêtée à 7 conciles. Une fois que ces 7 conciles ont été obtenus et que tout a été réglé, parce que les conciles ont été simplement des réponses à des questions ou à des situations, des hérésies qui émergeaient, etc. Donc au terme de ces 7 conciles, on a décrété que tout était arrêté, décidé, déterminé, que plus rien ne changerait.
Donc un réformable, en quelque sorte.
Voilà, absolument. Et c'est ça que j'adore dans l'orthodoxie, et je dirais même aussi dans la Russie. Je trouve que la Russie est un pays qui garde ses traditions, grosso modo, par rapport au reste du monde. Elle reste attachée à ses traditions, et pour moi, ça, c'est un trésor.
Ah, disons qu'elle y revient, parce qu'elle est, il y a eu quand même la période soviétique, la période très agitée, et la période post-soviétique aussi, qui a été agitée.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison, mais rien n'a... Il y a eu un petit fil... qui a été gardé, une petite bougie, j'ai l'impression, et que ça ne s'est pas perdu complètement. Pendant l'époque soviétique, il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont gardé la foi et même la prière. Donc ils prétextaient par exemple des fêtes d'anniversaire et ils célébraient des liturgies dans des caves, dans des choses comme ça. Je fais par ailleurs collection d'icônes de l'époque soviétique. Les icônes étaient interdites, mais il y avait énormément de gens qui ont gardé la foi, qui fabriquaient des icônes à leur manière. Et ça donne quelque chose de tout à fait, je trouve, très touchant. J'aime particulièrement ces icônes. J'en ai quelques-unes déjà chez moi que j'ai ramassées, achetées, etc. Donc voilà, je ne pense pas que ça que quelque chose s'est éteint complètement. Il y a quelque chose qui est resté vivant, même à travers l'époque soviétique. Je pense que les femmes ont fait beaucoup pour garder ces fois. Mais ça, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais pour revenir à ta question sur Pâques, tu me demandais. Donc ce que je te disais, c'est que ce que j'aime dans... Ce que j'aime dans l'orthodoxie, c'est justement qu'elle est restée très puissante, très forte, parce qu'elle n'a jamais changé. Donc elle a gardé toute la puissance de ce qu'elle était, elle restera toujours comme ça. Ça, j'aime bien. J'ai trouvé tout mon bonheur dans l'orthodoxie. Avant, j'étais catholique aussi, mais je ne venais pas trop dire ça, mais voilà. J'ai vraiment trouvé mon bonheur dans l'orthodoxie. Tout me comble dans l'orthodoxie.
Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que ton activité, l'activité principale de ta vie, c'est le service de l'église.
Oui, tout à fait. J'aime aussi chanter et sonner les cloches, voilà. Ouais. Et bien sûr aller à l'église, prier.
Mais... Tu es tous les jours à l'église?
Non, je ne vais pas tous les jours, c'est impossible avec mon travail. C'est impossible.
Oui, parce que tu as un travail alimentaire pour la télévision.
Oui. Donc voilà, mais j'essaie d'y aller quand même souvent.
Et il y a eu une, je veux dire, il y a une histoire de famille par rapport à l'orthodoxie, ou tu vraiment, c'est vraiment par hasard que...
Non, j'ai pas du tout d'histoire de famille par rapport à l'orthodoxie. Par contre, j'ai dans ma famille eu des personnes très croyantes. Mm-hmm. J'ai eu le frère de mon grand-père était chanoine, il mm-hmm. enseignait la théologie. Donc il y a des racines, on va dire, du côté de ma mère, très, très pieuses. Mm-hmm.
Et sinon, ta formation d'origine, ta vocation professionnelle d'origine, avant la théologie, qu'est-ce que c'est ?
Alors, j'ai fait des études de philologie mm-hmm. romane à l'Université catholique de Grenoble. Mm-hmm. Et puis, j'ai pas énormément enseigné, j'ai fait aussi l'agrégation, mm-hmm. qui n'est pas du tout la même chose qu'en France. L'agrégation en Belgique, c'est un diplôme d'aptitude pédagogique. Mm-hmm. Et puis j'ai fait des études de théâtre, j'ai créé une troupe de théâtre, je me suis un peu spécialisée dans le théâtre d'eau. Voilà, je faisais tout ça en Belgique avant de venir ici, j'avais un chouette travail que j'aimais bien. Je travaillais beaucoup dans les écoles, avec les enfants, où on faisait des tournées avec des troupes professionnelles. Mais il me manquait quelque chose de très profond que j'ai trouvé qu'en Russie.
Est-ce que la Belgique te manque ?
Non, la Belgique ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est ma famille, évidemment. Mais voilà, si ma famille habitait en Russie, ce serait magnifique.
Ça serait parfait, oui, c'est sympa. tu retournes de temps en temps ?
Je retourne une fois par an.
D'accord. À quelle époque ?
Plutôt l'été. Moi, je pense que la vie est vraiment très, très intéressante quand on cherche Dieu. Et on n'a pas le temps de s'embêter, on n'a que des choses magnifiques et intéressantes. Les églises et les monastères ici, je ne m'en lasse pas.
En tout cas, merci du temps que tu m'as accordé.
Avec plaisir.
Je vais mettre tout ça dans un beau podcast, parce que j'avais promis à mes auditeurs un podcast extraordinaire. Et je crois que la promesse va être tenue. Et tout ça grâce à toi, alors merci beaucoup.
Merci à toi aussi.